France Inter. Édition spéciale.
Bienvenue dans cette émission spéciale de France Inter, baptisée en effet Tous en scène, tous en terrasse, puisque nous serons pendant une heure de Nice à Paris, de l'attentat sur la promenade des Anglais il y a un an, à la Tour Eiffel pour le grand concert du 14 juillet que vous suivrez en direct sur Inter. Ce sera à partir de 21h15. Les artistes nous attendent aussi à Avignon, au Francofolie de La Rochelle. Mais tout de suite, premier détour à quelques encablures de la maison de la radio. Vous êtes là, bonsoir Anna Sigalevitch.
Bonsoir Sébastien Pavour, oui je suis
comment
là,
allez-vous?
Je suis en effet très très bien, je suis installée dans un studio au pied de la Tour Eiffel,
quelle
aux premières
chance.
Loges du concert de Paris qui débutera comme vous le disiez à 21h15 et qui sera suivi du feu d'artifice à 23h. Mmh. Alors on a déjà pu rencontrer, on a eu la chance d'avoir en interview en exclusivité Valérie Gergiev, le grand chef d'orchestre qui est venu à notre micro.
On va recevoir, qui sera à la baguette ce soir Anna hein,
qui sera à la baguette ce soir absolument pour la première fois. On va recevoir tout au long de l'heure de nombreux artistes. Il y aura la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui sera en plateau avec nous. Gauthier et Renaud Capuçon seront là. Les chanteurs Diana Damrau et Ludovic Tézier. Voilà pour cette cinquième année consécutive. Donc on peut désormais parler presque de tradition où le concert de Paris est un concert de musique classique.
Mmh, une belle habitude prise à la Tour Eiffel, en effet,
oui. Oui, oui. Et puis, il y a trois des quatre forces vives de Radio France qui sont là. Il y a l'Orchestre National de France, il y a le Chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France. On les a aussi rencontrés. Et c'est vrai que les plus grands artistes classiques sont présents hein, pour l'occasion. Donc, Diana Damrau, Nadine Sierra, Anita Rajvelishvili, Ludovic Tézier, Brian Himmel seront là et chanteront les grands tubes du répertoire. Mais pas que. Voilà, il y a un répertoire français, italien, russe aussi, pas
plein
mal.
De belles choses. Plein de belles choses.
Absolument.
Dites-nous un mot, Anna, peut-être de la foule pour ceux qui ne sont pas à Paris ou pas encore au pied de la Tour Eiffel. Y a-t-il déjà du monde? Le concert est dans une heure et quart maintenant?
Ah oui, mais il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Les gens entrent au compte-gouttes hein, sur le Champ de Mars parce que le dispositif de sécurité est quand même très, très renforcé. Hein. Chaque spectateur est soumis à une fouille sérieuse. Il y a 3500 policiers et gendarmes, il y a des militaires, il y a des bateaux de surveillance, il y a un drone qui a été fourni par l'armée de l'air. On attend des centaines de milliers de personnes ici. Donc
un demi-million,
sont...
ai-je lu.
Un demi-million, ah bah, c'est pas mal.
C'est ça, ça fait des centaines de milliers, vous avez raison.
Oui, c'est ça. Bon. Donc, mais les gens arrivent plutôt tranquillement. Il y a des familles, c'est assez joyeux et serein pour le moment.
Merci Anna, on ira voir ça tout à l'heure avec Adrien Toffolet, qui est lui sur le Champ de Mars, avec ses spectateurs et ses futurs auditeurs de ce beau concert. Et on vous retrouve tout à l'heure, Anna, avec les invités dont vous nous avez parlé, notamment peut-être les frères Capuçon, la maire de Paris également, et les solistes qui viendront s'exprimer aussi tout au long de ce concert ce soir à suivre sur Inter. L'autre épicentre du jour, c'est Nice. Bien sûr, la promenade des Anglais. Un an après l'attentat qui a fait 86 morts, 460 blessés. Vous êtes sur place, Sébastien Hazard. Rebonsoir, on était ensemble à 19h.
Rebonsoir.
Cérémonie d'hommage aux victimes a eu lieu tout à l'heure, Sébastien.
Oui, c'est même une journée d'hommage, hein. Sébastien, débuté sur la promenade des Anglais dès 9h du matin. Hein, les familles de victimes qui ont en premier déposé ces fameuses plaques hein, pour former une fresque de 170 mètres de long, pour finalement découvrir ce message ce soir, liberté, égalité, fraternité, écrit en bleu, blanc, rouge, long, ce message de 170 mètres, je vous le disais. Il est présent, bien sûr, ce soir sur la promenade des Anglais. Céline est niçoise, elle est venue un petit peu plus tard dans la matinée pour participer, elle aussi, à cet hommage.
On est venu là parce que on pensait que c'était une jolie pensée, un joli geste, par devoir de mémoire, pour rendre hommage aux victimes et aussi à ceux qui sont là aujourd'hui et qui sont blessés et qui sont encore à l'hôpital et qui restent et qui sont orphelins. Et il y a aussi toutes ces familles démunies et amputées d'elles-mêmes.
12 000 plaques déposées tout au long de cette journée, des petits carrés de 20 cm sur 20. Et puis bien sûr, dans l'après-midi, cette cérémonie très sobre, hein, avec notamment un moment d'émotion très intense lorsque les noms des victimes ont été énoncés un à un.
Stéphanie Césari, 43 ans.
Hervé Chadeau, 44 ans.
Fatima Chari, 58 ans.
Ça a duré en réalité une vingtaine de minutes. Hein. Les témoins, les anonymes, qu'ils soient place Masséna ou devant l'écran géant retransmettant cette cérémonie, ont été très marqués, silencieux. Sophie, par exemple, n'avait pas forcément prévu de venir aujourd'hui, mais pour elle, comme pour son fils et son mari, c'était important d'être là.
On s'est décidé au dernier moment, mais c'est au dernier moment que ça nous est paru évident. En fait, on est niçois depuis 18 ans. Très émouvant. Je pense que les gens, on s'est de nouveau sentis soudés. Reconstituer le cœur, je crois. Ça, c'est le plus poignant. Ça restera le plus poignant toujours. Le cœur avec les 86 noms des victimes, ça, ça restera le plus poignant. Ouais. L'annonce des noms, les chants en arrière et à l'image, on a vu le cœur se reconstituer, formé avec tous les noms, prénoms. 86 personnes, ça a bien énoncé, ça représente du temps et toute l'ampleur du dégât. Bien sûr, quand on entend 3 ans, 6 ans, ça fend le cœur, c'est affreux.
Il fallait une journée de témoignage, d'hommage, un an après, c'était nécessaire.
Je pense que ne pas marquer le coup, ça aurait relancé une colère. Bien sûr qu'il fallait, après avoir les officiels en plus, le président de la République, c'est quelque chose quand même immensément symbolique.
Ouais. Et Emmanuel Macron, justement, qui a notamment expliqué comprendre la colère des Niçois, tout en saluant également l'action du précédent gouvernement.
Alors, hommage donc avec la lecture des noms des victimes assez émouvant, lecture assez émouvante qu'on a entendue à l'instant. Et puis concert ce soir, Sébastien, pour résister au terrorisme. On va en parler dans un instant avec notre invité.
La diffusion tout d'abord du film 86 galets sur l'Himalaya, parce que une expédition est allée au sommet du Stock Kangri dans l'Himalaya, déposer au sommet ces galets, les bleus, blancs, rouges, des galets de plage, hein, avec les noms des victimes. Le chiffre 86 qui est évidemment symbolique, bien sûr, très présent tout au long de la journée. Il y aura aussi un lâcher de ballon et puis bien sûr le concert, l'orchestre philharmonique de Nice et le chœur d'enfants de l'opéra. D'abord un concert classique, notamment des œuvres de Verdi et de Bach, puis à 22h34, une minute de silence. Pourquoi 22h34? Parce que c'est l'heure du début de l'attaque. L'an dernier, 86 faisceaux lumineux partiront de la promenade des Anglais en direction du ciel. Pas de feu d'artifice hein, ce soir, ni place Masséna, ni sur la promenade des Anglais, mais une chanson, Calogero, qui interprétera justement la chanson Les feux d'artifice. Ça, ce sera en fin de soirée.
Merci Sébastien Hazard avec Marc Garvenès en direct de Nice pour toutes ces précisions sur cette journée d'hommage et puis ce qui va suivre aussi ce soir, à la fois donc à Paris et à Nice avec vous. Et bonsoir Vincent Cespedes.
Bonsoir.
J'ai dit que vous étiez avec nous et je ne vous ai pas encore salué. Les auditeurs vous connaissent, vous êtes philosophe. Vous avez beaucoup écrit sur la résistance et les nouvelles formes de résistance dans la foulée des attentats de Charlie Hebdo. On sera tout à l'heure à Avignon avec la directrice des ressources humaines de l'hebdomadaire. Et puis dans la foulée des autres attentats de novembre et puis de ceux de Nice. Il faut adapter la résistance aux formes de terrorisme.
Oui, il faut s'adapter parce que on a affaire à une résistance qui doit aussi être d'ordre symbolique, comme le terrorisme aussi est d'ordre symbolique. Le terrorisme auquel on a affaire est un terrorisme qui vise à semer la panique, l'insécurité, la peur dans les cœurs, dans les esprits, à insinuer la défiance entre les citoyens. Et donc, la néo-résistance, cette résistance qui cherche à inventer du nouveau, et en utilisant la place du symbolique, on le voit bien d'ailleurs dans cette journée de commémoration, le symbolique est extrêmement présent, des galets sur l'Himalaya, des noms qui sont égrenés, des faisceaux de lumière. C'est un combat symbolique et culturel. Et donc effectivement, c'est des nouveaux moyens de résistance. On n'est pas dans le pur militaire, dans le pur sécuritaire. On est aussi dans le citoyen, le culturel et le symbolique qui touche à la fois l'émotion et à la fois les idées. Et le terrorisme s'appuie sur des idéologies et on peut combattre le terrorisme par les idées et par la philosophie.
Nous, on a choisi de baptiser cette soirée « Tous en scène, tous en terrasse ». Ce hashtag « Tous en terrasse » est né après les attentats de novembre. Résister, aller dans les cafés, c'est résister aussi ?
En fait, travailler sur soi pour ne pas avoir peur, travailler sur les autres en leur disant que la peur est le pire ennemi pour nous, justement, qu'on peut évidemment être dans l'appréhension, mais qu'il y a des nouveaux combats à mener, des combats de vigilance, des combats d'éclairage des jeunes générations, des combats pour pouvoir dire le mal, pour pouvoir prévenir le mal en donnant des informations, etc. Toute cette société civile qui s'organise pour avec cette simple question que j'ai eu beaucoup, moi, sur je suis assez actif sur les réseaux sociaux, et tout le monde venait me voir en disant qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle. Et la néo-résistance est née de ça. Oui. C'est-à-dire, il y a quelque chose à faire. J'ai, par exemple, c'est un détail parmi tant d'autres, lancé des agora vidéo en détournant la technologie Facebook, les vidéos live.
De fou,
on en a fait 400 en un an, des agora. Donc donc des citoyens prennent la vidéo et philosophent avec des autres citoyens en dépassant la conversation de comptoir et essayent de trouver une argumentation. Alors ça peut être le coup de gueule, ça peut être des émotions, ça peut être extrêmement construit, chacun selon son niveau. Mais l'idée, c'est de dégoiser les angoisses et de donner du sens. Le vrai combat, la vraie résistance aujourd'hui, c'est de donner du sens à la démocratie et d'incarner la liberté active. Tous en terrasse, c'est d'abord la liberté incarnée. La liberté, ça ne doit pas juste être un beau mot au fronton de nos mairies, ça doit être incarner la fraternité, idem.
Vous avez même créé un tarot philosophique. C'est une application pour smartphone ?
Oui, alors je m'exerce dans les applications philosophiques sur smartphone et je parlais de symboles. Effectivement, c'est un tarot qui n'est pas du tout mystique ou ésotérique, ça s'appelle le jeu du phénix. Et le but, c'est de tirer une carte au hasard et d'avoir des scénarios alternatifs à des certitudes qu'on pourrait avoir. Et donc ça s'applique, mais vraiment, alors on peut l'appliquer de façon très créative, mais on peut aussi l'appliquer sur des questions extrêmement essentielles. L'idée, c'est de faire parler. Et si le hasard sert à ça, et tirer une carte au hasard sert à faire parler. Par exemple, moi j'ai grandi avec de possibles non-dits, et je vois à peu près ce qui est très dur, c'est quand la peur, l'angoisse et la mort fleurit avec des non-dits. Les non-dits nous brisent. Je préfère un excès de parole à un excès de silence. Et je pense que, alors on a tous envie de crier avec ces attentats, les attentats de Nice sont vraiment horribles. Ce cri doit se formuler en mots et ce mot doit s'articuler en idées. Je pense qu'on a un immense terrain devant nous. Nous devons inventer tous ensemble une philosophie de résistance face à la barbarie.
Et vous proposez d'ailleurs un programme de néo-résistance, j'ai lu, en 9 citations, 9 verbes. Faire du bien, rire, aider, aimer, parler, on en a parlé aussi. Être responsable, éduqué. Vous citez Nelson Mandela, Hannah Arendt, Georges Bernard Shaw notamment.
En fait, l'idée, c'était très, très brutal, mais l'idée, encore une fois, certaines personnes sont venues à moi en disant on veut du sens. Bon, moi, je suis pas un pourvoyeur de sens. Mais l'idée, c'était de mettre des pistes, des jalons pour qu'on puisse tout de suite dépasser le simple affect. Pour ne pas être étouffé dans cet affect sinistre, morbide, où on déprime tous, parce qu'on a tous déprimé devant la télé, dans l'inaction. Donc, pour être actif, c'est penser ensemble. Moi, je crois vraiment qu'il y a un essor de philosophie, je dirais, citoyenne à mettre en place. On le voit partout, on l'a vu pour la dernière élection. Nous devons devenir tous philosophes en acte aujourd'hui.
Et penser et résister collectivement, c'est exactement le sens de cette émission. Vincent Cespedes, on va vous retrouver tout au long de cette heure qui a déjà bien entamé. Allons justement voir du côté de l'un des festivals français les plus anciens, le plus grand en matière de théâtre et de danse, je crois qu'on peut le dire. Avignon, où nous attend Stéphane Capron. Bonsoir mon cher Stéphane.
Bonsoir Sébastien.
Comment allez-vous ?
Très bien, oui. 71e édition, c'est né en 1947.
Bon, bah c'est ça, alors 71e édition. D'abord, un mot de l'ambiance cette année. Vous avez l'habitude de couvrir Avignon pour Inter depuis longtemps. Le dispositif de sécurité est impressionnant, plus impressionnant que les autres années ?
Oui, il est plus impressionnant parce que ce week-end du 14 juillet, c'est vraiment le week-end le plus dense. C'est difficile de compter, mais il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans les rues. On peut pratiquement plus marcher pour accéder aux différents théâtres. Et cette année, la ville et la préfecture ont véritablement veillé à sécuriser le cœur du festival. C'est-à-dire, c'est la rue de la République. La rue de la République, c'est une longue rue qui part de la gare, qui va jusqu'à la place de l'Horloge. Elle est entièrement piétonne pendant les 3 semaines du festival. Et bien, pour la première fois, il y a des blocs de qui sont positionnés à des endroits stratégiques pour éviter l'intrusion de véhicules dans ce secteur qui monte jusqu'au Palais des Papes. Donc vraiment, il y a une sécurité maximum. Les fouilles ont été renforcées dans toutes les salles de spectacle. On demande aux spectateurs d'arriver en avance. Alors du coup, il y a beaucoup de spectacles qui démarrent un petit peu en retard, mais tout le monde se plie à ces mesures drastiques de sécurité. Puis la bonne nouvelle, c'est que moi, je vois énormément de jeunesse dans la rue. La jeunesse des quartiers d'Avignon est là, les touristes, les festivaliers, il y a beaucoup de joie de vivre cette année. Vraiment, les gens ont envie de faire la fête. Il y a vraiment une ambiance de fête depuis le début du festival.
Bon, malgré ces mesures de sécurité et ces blocs de béton sur cette rue piétonne que vous signaliez, que vous décriviez, qui nous font penser évidemment à ce qui s'est passé il y a un an à Nice. Marie Cabrette, je crois, est à vos côtés. Stéphane, bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes la DRH de Charlie Hebdo, la directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo, de l'hebdomadaire. C'est vous notamment qui avez porté le spectacle qui débute ce soir pendant le off d'Avignon au Théâtre de Loul. C'est une lecture du livre posthume de Charb, le patron de Charlie, évidemment, tué dans l'attentat du 7 janvier 2015. Expliquez-nous de quoi il s'agit, ce spectacle.
Alors, c'est une lecture de ce extrait de ce livre dont les dernières corrections avaient été apportées par Charles le 5 janvier 2015.
Juste avant l'attentat, 2 jours avant.
Juste avant l'attentat. Et c'est terrible parce que c'est un livre qui explique aussi le 7 janvier. C'est un livre qui parle de laïcité et qui parle de la manipulation autour de ce mot islamophobie, de pourquoi on utilise le mot islamophobie, qui l'utilise, dans quel sens, et qui rappelle que, bon sang, critiquer des dogmes, une religion, ça n'est pas critiquer des croyants. C'est une grande différence, c'est critiquer des idées.
Oui, j'ai pas donné le titre de ce livre de Sharp, qui l'achève donc.
Les escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes.
Absolument, c'est la coïncidence est troublante. Il écrit ça alors que deux jours après, il va faire partie des victimes dans les locaux de Charlie à Paris.
Nommément visé.
Ce sera une lecture irresponsable qui va mêler musique et vidéo. C'est le programme. Vous pouvez nous décrire un peu de quoi il s'agit?
Alors c'est une lecture qui s'appelle irresponsable parce que c'est un mot qu'on a accolé en permanence ces 15 dernières années, en particulier après 2006, le procès des caricatures, le dessin de Cabu, où on disait de Charlie qu'il fallait pas dessiner Mahomet, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé en 2015, hein, très vite après le 7 janvier. Il l'avait bien cherché, fallait pas dessiner Mahomet, etc. Comment rendre les victimes coupables? Avec cette notion aussi, ici en France, le droit au blasphème, on l'a. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont utilisé en permanence. Donc ce spectacle, c'est à la fois évidemment des extraits, c'est Charme qui parle aussi, parce qu'il s'est beaucoup exprimé sur le sujet de la laïcité. C'est un hommage qu'on a voulu lui rendre à l'heure où Charlie fête ses 25 ans.
Cette année,
puisque la reparution de Charlie après les 10 ans d'absence, première période, c'était le 2 juillet 92.
Donc 25 ans au total. Ça a été compliqué à monter un tel spectacle, enfin peut-être en matière de sécurité aussi, se dire qu'une lecture de Charbe, c'est peut-être pas facile à monter et à accueillir du public.
Rien n'est facile à monter depuis 2 ans et demi quand on s'appelle Charlie Hebdo et qu'on veut faire des choses publiquement. Vraiment, rien n'est facile. Ce qui a été beaucoup plus difficile pour nous, c'est de savoir que le thème du livre de Charb a posé problème à des programmateurs.
Ah
et
oui.
C'est pour ça qu'à un moment j'ai parlé de censure sécuritaire, parce qu'ils se sont cachés derrière cet argument-là, bien évidemment.
Pour refuser de programmer.
Et parce qu'on va pas faire taire Charb une deuxième fois.
Et finalement, ça aura lieu. Oui, Stéphane Capon, rapidement.
Je crois, Sébastien, qu'il faut rendre hommage au directeur de théâtre, du directeur du théâtre de Loul, qui s'appelle Laurent Rochu, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans l'édition, il a notamment fait partie de l'Idiot international. Donc, il est très sensibilisé et il est très soucieux de cette liberté de parole.
Ouais.
Absolument.
Et c'est grâce à lui que ce spectacle va être monté. Ça s'appelle donc Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Texte de Charb, donc. À partir de ce soir, 23h30, c'est au théâtre de Loul. Ça durera 5 lectures. Merci Marie Cabrette, directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo, et merci aussi à vous Stéphane Capron depuis le Festival d'Avignon qui se poursuit donc. Merci à tous les deux. Retour à Paris, à la Tour Eiffel, à un peu moins d'une heure maintenant du début du concert de Paris. On retrouve Anna Sigalevitch. Anna, vous êtes avec des invités, des chanteurs qui se produiront tout à l'heure peut-être ?
Oui, absolument, qui vont sûrement se produire.
Alors avec qui ?
Je suis avec un chanteur pour l'instant parce que Diana Damrau est en pleine séance de maquillage, mais je ne doute pas qu'elle arrive très très bientôt. Donc nous sommes avec Ludovic Thésier. Voilà, ici la pelouse du Champ de Mars est de plus en plus noircie par la foule, dans une ambiance tout à fait sympathique. Voilà Ludovic Thésier qui nous fait l'amitié d'être avec nous, alors qu'on sait que souvent les chanteurs aiment rester au calme, se concentrer tranquillement avant leur prestation. Donc merci beaucoup. Ludovic Thésier, comment vous vous sentez à un peu moins d'une heure du début du concert ?
Festif. Très heureux d'être là. On avait rendez-vous avec le soleil, il est arrivé, donc c'est parfait. Et pour le reste, on est assez nombreux, je crois, et ça va être phénoménal. On a rarement l'occasion de chanter devant tant de monde, quand même, lorsqu'on est un chanteur lyrique. Donc c'est une ambiance juste extraordinaire.
Vous êtes un habitué, vous, du concert de Paris ?
Un habitué, c'est un grand mot. J'avais fait la première mouture en 2013, qui était en plus, en étant une première mouture absolument extraordinaire au sens propre. Donc il y avait quelque chose un petit peu, pas bricolage, mais très improvisé. Et j'ai l'impression que les rouages baignent dans l'huile aujourd'hui. Ça marche tout seul, c'est magnifique.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être ici ?
Le grand air. Et la foule, c'était extraordinaire. J'ai l'impression d'être Johnny Hallyday. c'est un rêve de gosse. Mais c'est vraiment génial parce qu'en plus, les gens viennent spontanément pour juste le bonheur de partager une soirée sous les étoiles dans Paris. Et Paris, ce soir-là, est un petit peu un cœur battant dans le monde et c'est important. Il faut être là, il faut y participer. On vibre ensemble. La musique, c'est de la vibration et on vibre tous ensemble.
Je suis content.
C'est une expérience très forte.
Si je peux intervenir, Anna, je sais pas.
Oui, bien sûr. Spirituel et très sensuel aussi parce que ça bouge, quoi. C'est important.
Est-ce que Ludovic Tézier m'entend ou pas?
Comment?
Est-ce que Ludovic Tézier m'entend, Anna?
Est-ce que vous entendez Sébastien Paour?
Non, il n'entend pas.
Non.
Ça m'a fait rire d'entendre un baryton français, un grand baryton français, se comparer à Johnny Hallyday, qui s'est produit le 14 juillet à cet endroit, au Champ de Mars. Voilà, c'était juste ça. Pardon d'avoir interrompu cette conversation.
Je transmettrai votre
Diana phrase. Damrao est avec vous, je crois.
Absolument. Bonsoir, Diana Damrao. Merci d'être avec nous. Vous avez fait très vite. Merci. Alors, vous êtes soprano, vous êtes allemande, même si vous avez des liens avec la France puisque votre mari est français. Vous, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici à Paris le soir du 14 juillet?
Oh mon Dieu, c'est une grande joie et c'est une aventure et aussi un grand honneur.
C'est un symbole qui est important pour vous?
Ah oui, absolument. J'adore la France.
Quel plaisir il y a pour vous à chanter en français?
Depuis que j'ai commencé de chanter, j'adorais la poésie, la langue française. Et avec beaucoup d'amour et un peu de travail, ça marche très bien.
Vous allez chanter un air en français et un air en allemand?
Oui.
Vous allez chanter Roméo et Juliette?
Il y a la Juliette, la fameuse valse.
De Gounod?
Oui, je veux vivre. Et après, Morgan de Richard
Strauss. Un livre de Strauss. Ludovic Tézier, vous allez chanter Don Giovanni? Deux airs, me semble-t-il.
Deux airs de Don Juan, la sérénade et l'air dit du champagne. Et un morceau choisi, j'allais dire, du duo de Don Carlo avec l'ami Brian Nivelle.
Vous serez
posa? Oui, absolument, oui. C'est pas mal, non?
Ouais.
Est-ce que
vous avez plus le trac d'être devant comme ça des centaines de milliers de personnes ou est-ce que finalement c'est pareil quand on est face à un public qu'il y en ait 100 ou des milliers?
Moi, ouais, je pense que si on chante pour une personne ou pour 10 000, il n'y a pas de grande différence parce qu'on veut faire le mieux ce qui est écrit dans la musique et être dans le moment du personnage. On joue, on chante, on représente et on veut que ça soit une fête pour tout le monde. Voilà.
C'est la fête. Les gens viennent là pour faire la fête. Moi, faire la fête, ça peut pas induire un trac. Bien sûr qu'on essaie de donner le mieux. On va pas chanter, je crois, ni Diana, ni moi, ni tous les petits copains, j'allais dire de manière légère. On va faire vraiment le mieux, comme dans la plus grande soirée d'ouverture des plus grandes maisons d'opéra. Mais en plus, il y a cette dimension de gestes, certes des artistes vers le public, mais du public vers les artistes, parce qu'ils viennent très nombreux et ils attendent du bonheur. Donc on va essayer de partager ça.
Vous participez souvent à des grandes festivités populaires comme celle-ci? En musique classique, vous avez souvent l'occasion de ça?
Pour mon compte, non, très peu, peut-être toi.
Moi aussi, rarement.
Non.
C'est toujours quelque chose complètement différent comparé à l'opéra, parce que pour nous, c'est nouveau de chanter avec des micros, on ne sait pas comment la voix va arriver, et aussi pour ce vaste espace.
Oui.
Ici, c'est complètement différent. Donc, on a un peu le trac, parce qu'on ne connaît pas si bien.
Mais c'est très excitant. C'est pas un trac qui inhibe, c'est un trac, au contraire, qui met des fourmis dans les doigts, on a envie d'y aller, c'est assez magique, en fait. Hein.
Et la foule va vous portez tous, Anna, avec vos invités, Ludovic Tézier et Diana Damrao.
Oui.
On les remercie d'être venus au micro de France Inter
à
trois
Diana
quarts d'heure de chanter. Hein. Je crois que c'est assez rare. Merci Anna et on vous retrouve
tout à l'heure.
Merci à tous les deux, Diana Damrao, la grande soprano allemande, Ludovic Tézier, le baryton français, d'être venu au micro d'Inter à quasiment 20h30.
France Inter, édition spéciale.
Et bonsoir, mon cher Didier Varro.
Bonsoir, Sébastien Paour.
On quitte la Tour Eiffel et on se retrouve en direct sur Inter un 14 juillet. Vous vous souvenez, Didier, qu'on était ensemble déjà l'an dernier?
Tout à fait. Il y a un an, nous étions là lorsque l'attentat de Nice a mis toute la France dans un état de sidération absolue. Vous avez choisi comme titre Tous en scène, tous en terrasse, cher Sébastien. Ben, je vous le confirme. Nous sommes juste en face de la scène Jean-Louis Foulquier, juste en face de nous, qui fait face et qui fait le plein ce soir, comme tous les soirs depuis le début du festival. Et ce soir, c'est Camille qui est en train de chanter sur scène et Julien Doré lui succédera. Et puis, juste à côté de moi, il y a Gérard Pont, en terrasse comme moi, le directeur du Festival des Francofolies, bonsoir Gérard, qui a écouté très sagement tout ce qui s'est dit jusqu'à présent. Gérard Pont, La Rochelle, elle a mis un peu ça en slogan « Tous en scène ». Tous en terrasse pour continuer le vivre ensemble, la fête.
Bah, je pense qu'en tout cas aujourd'hui, tous les festivals affichent complet. Ça prouve bien que les gens veulent être ensemble. Je pense qu'ici à La Rochelle, on le prouve. La ville, regardez en face de nous, il y a des gens partout. Je crois que voilà, la réponse est là. Et donc effectivement, la ville vit le festival. Et ça, j'en suis fier et heureux.
Et vous n'avez pas envie de basculer dans une forme de surenchère anxiogène par rapport aux problématiques du tout sécuritaire.
Je vous ai dit que je voulais pas participer justement à ce débat parce que je trouve que c'est quand on met de l'anxiété sur l'anxiété, ça devient terrible. Je pense qu'on est tous des gens, on est tous conscients qu'il y a des risques d'attentats dans en France aujourd'hui, mais arrêtons d'en parler, on le sait, tout le monde le sait, et donc tout est fait, tout le monde prend ses responsabilités, à la fois l'État, mais nous aussi, et les gens dont on fait partie. On sait qu'il faut être vigilant, on sait que c'est et on sait qu'on prend un risque, c'est la vie.
C'est
notre vie aujourd'hui.
Résistons en silence,
Sébastien,
c'est ça. Est-ce qu'il m'entend, Gérard Pont ?
Oui, je vous entends.
Résister en silence, enfin en chanson, mais en silence. Enfin, arrêtons d'insister. Alors, pardon de vous faire venir dans une émission comme celle-ci, du coup.
Non, mais je pense qu'il faut faire attention de pas pas sur. Jouer cette anxiété, je pense que les gens sont très 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 conscients. D'ailleurs, on voit bien, tout le monde accepte d'arriver en avance au concert, d'être fouillé. Tout le monde joue le jeu, tout le monde sait. Et personne ne râle aujourd'hui quand on voit la sécurité extrêmement présente. Voilà. Et Dieu sait si moi je peux vous dire que j'aime pas les uniformes. Aujourd'hui, je suis très heureux d'en voir. Et voilà. Donc. Je pense qu'avant tout, la preuve de c'est que tous les gens sont. Enfin, vous ne voyez pas ce qu'on voit, mais il y a des milliers de gens autour de nous, et je peux vous dire qu'ils sont heureux d'être là.
Et il y en a aussi à la Tour Eiffel où on était à l'instant, il y en a autour de vous. Et il y a aussi des artistes qui vous ont parlé, je crois, Didier.
Bien sûr, cher Sébastien. Alors j'ai rencontré Julien Doré cet après-midi, qui sera dans quelques instants sur la scène Jean-Louis Foulquier des Francofolies. Alors spontanément, il nous a parlé de l'interaction entre le monde artistique et l'époque. Et plus précisément, il nous parle du rôle de l'artiste lorsque la société est menacée dans ses équilibres vitaux.
C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait un immense paradoxe aujourd'hui entre le monde artistique et l'époque dans laquelle nous vivons. On a de cesse d'essayer de les séparer. Ils sont un petit peu à part, ils sont un petit peu hors réalité. Mais en fait, injecter du lien, injecter voire même de l'amour au travers de ce que nous créons, c'est une nouvelle bataille. C'est un paradoxe, mais vouloir faire du lien, vouloir faire l'amour, en quelque sorte, c'est en soi une forme de conquête, de bataille, de lutte, voire même de guerre.
On est le 14 juillet, il y a un an, la France était abasourdi, terrorisé une fois de plus avec l'attentat de Nice. Est-ce qu'aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est la célébration, c'est le défilé du 14 juillet, et en même temps on va, entre guillemets, célébrer ces un an. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est artiste ? Toi, tu vas y penser ce soir, au moment où tu vas monter sur scène.
Je pense qu'à partir du moment où on a une once de sensibilité, on est nécessairement habité par les choses qui arrêtent brutalement la vie. J'espère que c'est quelque chose qui doit être présent tout le temps. Là où c'est... parfois compliqué, c'est que dans notre chance qu'on a de s'exprimer comme je suis en train de le faire, de monter sur scène en lumière, de faire naître des sourires, de la joie, des réactions, etc., on se doit de continuer de créer des choses pour susciter ça. Parce que sinon, on ne peut que s'éteindre. Et si tout le monde s'éteint à un moment donné, alors rien ne peut survivre, rien ne peut exister. Mais il y a quelque chose d'un peu culpabilisant à l'idée de se dire « j'ai cette chance ». Très étrange de faire naître de la joie dans une époque qui me rend triste. Eh bien, au fond, ma place, elle est là, parmi d'autres. Je ne suis qu'un bout de métal dans un chaînon qui constitue une chaîne artistique qui dépasse d'ailleurs la musique, hein, qui traverse des tonnes de choses, la littérature, le cinéma, la bande dessinée, etc. Mais je fais quand même partie de cette chaîne-là. Et cette chaîne-là, elle a un poids. et elle se doit de continuer d'exister. On doit empêcher qui que ce soit de briser cette chaîne-là. Parce que nous avons un pouvoir d'action, parce que nous avons, parce que nous avons une utilité, enfin, tout simplement.
Julien Doré au micro de France Inter qui parle de faire l'amour, une sorte de nouvelle guerre et de résistance. Hein. Et je voyais Gérard Pont sourire.
Bah oui, je partage complètement son point de vue.
Voilà. Mais
je
nous aussi.
Il a vraiment raison. Et voilà, j'ai envie de faire la fête et j'ai envie d'aller voir Camille. Voilà, ça c'est vraiment la meilleure réponse. Voilà.
Et cher Sébastien, Gaël Faye, rappeur que vous connaissez, auteur du livre Petit Pays, qui raconte une part de son enfance absolument au Burundi au moment de la guerre civile suivie du drame rwandais, et bien lui, il nous confirme le rôle essentiel qui est celui de l'artiste en ce 14 juillet 2017 par rapport à son environnement et son engagement.
J'ai envie de dire que je suis déjà arrivé à l'écriture suite aux guerres et à la guerre au Burundi, au génocide au Rwanda. Donc j'ai toujours pris assez au sérieux.
Nous avons plus Gérard en plateau.
Parole qui m'engageait, c'est-à-dire que le monde qui m'entoure a toujours été important depuis mes textes à l'âge de 13 ans, 15 ans, 16 ans. Et on a remarqué après les attentats, on avait envie d'écouter des artistes, on avait envie d'écouter des chansons, de partager des poèmes.
De lire des livres.
De lire des livres. Donc je... Bien sûr, il faut que l'art reste totalement libre et qu'on ne se sente pas une mission. Mais si on peut avoir quand même conscience que, d'une certaine façon, dans ces moments-là, les gens attendent de nous ce réconfort-là, soyons là pour le donner. Moi, j'ai chanté souvent, on m'a demandé de chanter pendant des commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda. Et dans une commémoration, après, une fois qu'un survivant vient à raconter son histoire, comment on peut se dire qu'on peut continuer avec une chanson? Eh bien, on ne peut pas venir et dire ce qui vient d'être dit, parce que ça nous dépasse. Mais on peut venir chanter quelque chose, dire quelques mots qui vont apaiser, qui vont permettre de respirer, permettre d'être ensemble. Voilà, et je crois que voilà, les concerts, ça sert aussi à ça.
Gaël Faye au micro de France Inter. Voyez, Sébastien Paour, la joie, l'amour comme vecteur de résilience pour continuer à vivre et à résister.
Ils en parlent bien tous les deux, Julien Doré et Gaël Faye, de cette manière de résister. Merci Didier, vous serez demain et dimanche.
Nous serons demain de 21h à minuit. Direct, absolument, avec Camille, Julien Doré, M, Vianney et tant d'autres.
Oh là là.
On va vous faire vivre ça pendant 6 heures de direct sur France Inter.
Ce sera fabuleux. Merci beaucoup Didier d'avoir été en ligne avec nous depuis les francophones Folie de La Rochelle. Et donc, on vous retrouve demain et dimanche soir de 21h à minuit en direct avec tous les concerts. Vincent Cespedes, philosophe, toujours avec nous en studio. Lire, faire l'amour, tout ce que disaient ces artistes, Gaël Faye, Julien Doré, c'est aussi votre façon de voir les choses après ces terribles attentats?
Peut-être. Mais j'ai l'impression que ça passerait par des moyens plus simples. Il ne faut pas oublier que ce qu'ont révélé ces attentats et les réactions après, c'est que la France est quand même dans une crise morale, notamment concernant une jeunesse qui se sent pas du tout reconnue par la République, voire qui est anti-républicaine. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que je trouve que on n'a pas trouvé les solutions à la hauteur des enjeux de ce trouble éthique qui se passe aujourd'hui avec des jeunes qui ne se sentent pas reconnus et qui du coup vont se replier sur eux-mêmes. Et on sait très bien qu'effectivement la majeure partie de la société est complètement unanime pour combattre le terrorisme et les causes. Autant il y a toute une jeunesse qui est laissée à l'abandon au niveau de l'éthique et de la morale, qui est déboussolée avec des débousseleurs professionnels qui sévissent sur les chaînes, sur Internet. Et c'est quand même cette jeunesse aussi qui est ciblée par les terroristes et les sorciers qui manipulent les âmes. Et je trouve qu'on n'est pas à la hauteur de cette fraternisation obligatoire qu'on aurait dû mettre en place. J'espère que ça va changer à l'avenir, mais il y a vraiment des mains tendues qui doivent exister là-dedans, des fraternisations. Les artistes, ils doivent aller aussi dans les banlieues perdues de la République. Les artistes, il faut les mettre en ligne de front. Gramsci parlait d'un front culturel et je le vois pas vraiment sortant d'une certaine bourgeoisie. Il faut aller dans les quartiers, il faut écouter aussi les jeunes des quartiers qui ont plein de choses à dire et leur donner les moyens de s'exprimer pour ne pas devenir fous.
Et écouter France Inter aussi avec tous ces artistes qu'on a entendus, Gaël Faye, Julien Doré, Et les grands musiciens qui sont avec vous aussi, Anna Sigalevitch, toujours à la Tour Eiffel à Paris. Vous êtes avec les frères Capuçon et avec Madame la maire de Paris, je crois.
Absolument, je suis avec Anne Hidalgo et avec Renaud et Gauthier Capuçon. Bonsoir, merci à tous les trois d'être avec nous. Anne Hidalgo, c'est la cinquième année consécutive que vous faites le choix de la musique classique pour le Concert de Paris. C'est désormais une tradition que vous souhaitez pérenniser.
Oui, c'est vraiment un concert qui s'est installé comme un moment de célébration, bien sûr de la fête nationale ici au pied de la Tour Eiffel, au Champ de Mars, mais aussi on a voulu dès le début, dès la première édition, faire en sorte que le grand public aussi découvre, redécouvre, vibre avec la musique classique. Et chaque année, grâce à ces musiciens, ces artistes extraordinaires, je pense qu'on donne le goût de cette musique.
C'est important pour vous de donner accès à la musique classique au plus grand nombre.
Bien sûr, et je pense que ce concert qui est regardé par des millions de personnes en France, mais aussi à travers le monde, est vraiment aussi à cette vocation, à cette capacité à diffuser, à donner envie. La programmation est toujours faite avec beaucoup, beaucoup d'intelligence. Des airs très connus, d'autres moins, des airs qui renvoie chacun peut-être aussi à des souvenirs, des petites madeleines de Proust. Voilà, donc on sème plein de petites madeleines là pour pouvoir les goûter et les déguster avec délectation ce soir et puis éveiller des souvenirs et des envies d'aller vers la musique classique.
Renaud et Gauthier Capuçon, est-ce que vous trouvez que la place qui est donnée à la musique classique en France est suffisamment importante ? Renaud ?
On peut dire qu'elle n'est jamais assez, mais on ne peut pas se plaindre non plus. Je pense qu'on a un pays qui a, où la culture est vraiment extrêmement présente. C'est un peu notre fierté, d'ailleurs. Je pense qu'il faut, on n'en est jamais assez fiers. Bien sûr qu'il pourrait y avoir plus de musique classique à la télévision, bien sûr, mais ce concert en est un bel exemple. Il y a d'autres manifestations aussi. Et pour nous, c'est une vitrine, pas pour apparaître, mais justement pour faire passer la musique au plus grand nombre, avec un grand chef d'orchestre, un grand orchestre. Donc c'est faire passer la musique avec l'excellence et pour tous, devant un immense nombre de gens.
Gauthier ?
C'est un moment vraiment excessivement symbolique, je trouve, d'unité. Alors bien sûr, il y a le partage de la musique, qui est quand même une des données essentielles de la musique, la partager. Là, on la partage avec un 500 000 personnes, des téléspectateurs dans le monde entier. C'est quand même le plus grand concert au monde de musique classique, il faut le rappeler. Mmh. C'est quand même extraordinaire. C'est la cinquième édition. Oui. Et voilà, moi, c'est pour nous, artistes, c'est merveilleux de pouvoir partager justement cette musique avec un plus grand nombre, leur faire connaître la musique classique, qu'ils connaissent, mais en tout cas leur montrer qu'elle est abordable à tous, qu'elle réunit, qu'elle rassemble, et qu'on peut aller écouter la musique classique dans une salle de concert en jean et sans forcément la connaître. On peut s'en imprégner et la partager ensemble.
Alors, vous faites beaucoup l'un et l'autre pour populariser et démocratiser la musique classique. Est-ce que vous avez le sentiment que l'image et le public aussi de la musique classique ces dernières années bougent ?
J'ai l'impression que oui, c'est en train de bouger. Le Concert de Paris est un vecteur extraordinaire, ce que fait le service public aussi sur France 2, il faut le rappeler. On a besoin de ça pour amener la musique.
Et
le public
France
rajeunit, je pense que chacun y apporte vraiment quelque chose et oui, c'est en train de changer.
Madame Hidalgo,
Oui, je partage complètement. Il y a aussi une belle institution, je vais en parler, mais la Philharmonie de Paris qui a été portée par l'État et la ville de Paris et avec Laurent Bell qui font un travail extraordinaire dans le nord de Paris en lien avec la Seine-Saint-Denis et avec cette idée aussi d'ouvrir complètement aux enfants,
des concerts
aux familles,
pour les familles le week-end,
des
beaucoup.
Concerts et je pense que cette façon de faire est une façon qui va permettre de partager beaucoup plus et de ne pas opposer, c'est-à-dire qu'on peut aimer les Daft Punk et être aussi fan de concerts et de musique classique. Donc je pense que c'est justement donner cette envie du partage, d'aller vers des univers musicaux très très différents et partager cette richesse, hein, ce patrimoine incroyable que l'on a et que les artistes nous permettent aussi de découvrir puisqu'ils le réinterprètent. Et il nous donne aussi l'occasion à chaque fois de redécouvrir des œuvres.
Et Paris est en train de redevenir la grande capitale
culturel et musical. On avait
oui,
un petit peu, on avait un peu perdu des points les dernières années.
Vrai.
On a vraiment maintenant, on est à une capitale où tout le monde veut venir jouer. La Philharmonie est une salle exceptionnelle. On a la scène musicale juste
musicale,
à côté.
Il y a l'Opéra beaucoup, Paris aussi,
voilà, il y a la Fondation Vuitton. Il y a beaucoup d'endroits où on fait de la musique aujourd'hui à Paris et on le sent nous parmi nos collègues. Tout le monde veut revenir jouer à Paris. Tout le monde aimait y venir déjà avant parce que la ville est sublime, mais on est vraiment redevenu une vraie capitale
européenne.
On voit
aussi avec les jeunes. J'ai l'impression que c'est en train la musique classique est en train de revenir un peu à la mode. Parler de Daft Punk, mais c'était peut-être considéré un peu ringard il y a quelques années parmi les jeunes. En tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes sont fiers de dire qu'ils commencent un instrument dans un conservatoire d'arrondissement ou de banlieue parisienne. Voilà, on doit être fiers de ça, c'est de notre patrimoine.
Alors, l'apprentissage de la musique classique, on sait que ça nécessite quand même un réel engagement, c'est pas une activité comme une autre. Comment est-ce que vous conjuguez, Anne Hidalgo, l'exigence et la démocratisation et le plaisir?
Par exemple, dans une ville comme Paris, on soutient nos conservatoires de musique qui, bien sûr, vont déceler les talents, vont pouvoir les accompagner. Mais on fait en sorte que ces conservatoires interviennent aussi directement dans les écoles. Parce que plus on va élargir la base de ceux qui seront les grands artistes de demain, plus on aura des grands artistes demain, et y compris dans des milieux, dans des quartiers qui ne sont pas forcément ceux auxquels on penserait pour aller vers la musique classique. Donc on a beaucoup, beaucoup ouvert avec Bruno Julliard, mon premier adjoint chargé de la culture. On a fait une réforme de nos conservatoires. On a beaucoup misé aussi sur les rythmes éducatifs, c'est-à-dire ces temps libérés par l'école, sur lesquels on a voulu mettre de la culture, de la musique et du sport. Et on s'appuie beaucoup sur les conservatoires pour pouvoir élargir et sur les enseignants. Puis, il y a aussi quelque chose qu'on ne sait pas toujours. Paris est une des rares villes en France à avoir un corps de professeurs de musique qui interviennent dans les écoles maternelles et dans les écoles élémentaires, payées par la ville de Paris. Ce sont des professeurs de la ville de Paris et qui viennent assurer de la maternelle jusqu'à la fin du primaire un enseignement musical dans les écoles. Donc voilà, c'est en allant au plus près des enfants, de tous les enfants dans tous les quartiers, qu'on pourra, je pense, aussi à la fois démocratiser, mais au-delà de ça, il vaut mieux toujours partir d'une base très très large si on veut identifier les grands champions et les grands... voilà, je suis beaucoup dans les JO en ce moment, mais c'est un peu pareil du côté des musiciens, ceux qui en feront leur métier, ceux qui en vivront et ceux qui nous feront rêver. Il faut aller les chercher partout où ils peuvent
jeune.
Être.
D'ailleurs, et très d'ailleurs jeune. Anna, est-ce que je peux intervenir?
C'est une langue.
Anna, est-ce que vous m'entendez?
La suppression des cours particuliers, on a entendu ça à un moment pour les petits, pour les premiers cycles. Est-ce que c'est une chose que vous souhaitez mettre en place?
Non, ce n'est pas une suppression de cours particuliers. Mm-hmm. C'est pouvoir faire en sorte qu'il y ait vraiment des petits groupes, qu'on apprenne aussi en petits groupes. C'est-à-dire à partir du moment où on veut donner accès à cet enseignement, à ce langage, langage musical au plus grand nombre, mais sans rien perdre de l'excellence et de la qualité du niveau de l'enseignement, voilà, il faut toujours réformer, il faut toujours revoir nos modes d'organisation pour être plus performant. Et je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, le système qu'on a trouvé sur Paris est vraiment très très intéressant. On va le suivre, on va l'évaluer, bien sûr, mais il est très intéressant du point de vue de la formation musicale et je pense de l'éveil de talents qui viendront à votre place, messieurs, dans quelques années.
Anne Hidalgo, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, tout à fait.
Bonsoir, Madame la maire de Paris. Vous avez parlé à l'instant de l'olympisme aussi, puisqu'on sait que vous défendez évidemment la candidature de Paris. On saura ça le 13 septembre. Ça avance d'ailleurs les négociations avec Los Angeles, vous en êtes où ?
Très bien, ça discute beaucoup, vous savez.
Ils sont d'accord pour nous laisser 2024 ou pas ?
Tout le monde va gagner, vous allez voir. Mais j'ai la chance justement d'avoir cette relation avec le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, qui est vraiment une personne très intéressante. C'est un maire démocrate américain avec qui on partage beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, dans ce qu'on pourrait mettre dans le panier d'un accord entre Paris et Los Angeles, au-delà du sport, on en a beaucoup parlé. Il y a des questions d'éducation et de musique et de culture. C'est vrai que avec Los Angeles, on partage cette envie de diffuser le plus largement possible auprès des enfants le goût de la culture. Et sport et culture, ça va ensemble. D'ailleurs, vous savez, le baron Pierre de Coubertin qui avait réinventé les jeux modernes en 1900 a vraiment fait ce mariage entre sport et culture et humanisme. Et donc aujourd'hui le message de Paris, notamment sur les Jeux Olympiques, est très très entendu par les membres du CIO, parce que c'est aussi le message de valeur qui était porté par Pierre de Coubertin et que nous perpétuons et qui fait partie de nos devises, de notre tradition et même de notre façon de vivre.
Et la Tour Eiffel sera aux couleurs de la candidature parisienne, je crois, ce soir, non ?
Écoutez, vous allez voir la surprise. Alors, vous savez, un feu d'artifice, ça ne se répète pas. Donc, c'est, voilà, c'est un... Donc j'ai toujours un peu d'angoisse, mais je fais confiance aux artificiers qui j'ai vu les tableaux mais en images de synthèse. Je pense que vous devriez être heureux, mais je suis toujours un peu superstitieuse. J'attends puisque ça ne peut pas se répéter. Voilà, il y a qu'une fois pour le voir.
Un dernier mot, puisqu'on est sur ce 14 juillet, à la fois le concert de Paris qui va être suivi partout dans le monde. Les Frères Capuçon disaient tout à l'heure, ce sera le plus grand concert mondial de musique classique. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, il y aura effectivement du monde à la radio, à la télévision et puis sur place, évidemment. Sur l'olympisme, c'est pas compliqué de devenir ville olympique quand votre ville, notre ville, a été aussi douloureuse. Touché par les attentats, de vendre en fait, la candidature quand la sécurité comme cela a été mise à mal.
Aujourd'hui, je pense que tout le monde, en tous les cas les membres du CIO, l'ont dit et redit, ils ont conscience des efforts que Paris a fait. Vous savez, on a accueilli ici même l'Euro 2016, on a accueilli des millions de personnes sur des championnats, je pense, ou sur des grandes épreuves. Je pense aussi au Tour de France qu'on va accueillir à nouveau dans quelques jours. Donc on a rehaussé notre niveau de protection et surtout le message qui est très entendu aujourd'hui par les membres du CIO, c'est que bien sûr que les terroristes voudraient nous empêcher de vivre, nous empêcher d'avoir le goût des autres, de partager, et on va pas leur donner cette victoire-là. Donc au contraire, je pense qu'il faut rester debout, actif, optimiste. Moi je suis profondément optimiste pour ma ville, je l'ai toujours été, j'ai toujours dit... Et s'il y a un endroit au monde où on ne peut pas être pessimiste, c'est bien Paris. On a vécu très douloureusement, on a des marques, on a des cicatrices, bien évidemment, elles ne s'effaceront jamais, parce que ce qui s'est passé en 2015 reste pour nous quelque chose d'extrêmement douloureux. Mais ce qui reste aussi, c'est la capacité de Paris et de la France à se relever et avoir ces grands moments de fraternité et regarder vers l'avenir.
C'est ce qu'on
fait. Il faut qu'on construise ce monde pour nos enfants.
Faire du sport et écouter de la musique. Merci, Madame la maire.
Ça rend meilleur.
Oui, absolument. Anna, je crois que vous êtes toujours avec les Frères Capuçon et peut-être une ou deux questions encore à leur poser avant qu'on retourne justement à Nice.
À la musique, absolument. Donc, vous allez jouer ce soir tous les deux le double concerto de Brahms, le troisième mouvement. C'est une œuvre que vous avez énormément jouée tous les deux ensemble depuis très longtemps. Pourquoi vous avez eu envie de jouer ce troisième mouvement ensemble ce soir ?
D'avoir cette question de répertoire, pour le violon, le violoncelle et l'orchestre, il y a assez peu d'œuvres. Et puis cette œuvre est très symbolique. Brahms est un immense compositeur. Et c'est une pièce qu'on a jouée plus de 100 fois ensemble et qui nous rassemble vraiment. Donc comme ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble. On est très heureux de le faire devant autant de monde. C'est assez sympa quand même.
Gauthier ?
Oui, c'est une œuvre d'unité, de fraternité et d'amitié renouée avec Joachim, pour qui Brahms a composé ce concerto. Donc c'est un peu notre histoire avec Renaud, cette histoire magique de pouvoir jouer ensemble. Et puis, comme Renaud le dit très justement, de se retrouver, puisque depuis quelques saisons, on joue un petit peu moins ensemble. Donc
par décision commune, pour mieux se retrouver.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les trois. On vous laisse vous concentrer. On a hâte de vous entendre tout à l'heure. Merci beaucoup, Anne Hidalgo, aussi d'avoir été avec nous.
Merci à tous. Merci à vous, Anna Sigalevitch. Merci à Renaud Capuçon, le violoniste, et à Gauthier Capuçon, le violoncelliste, d'avoir pris le temps de venir à moins d'une demi-heure maintenant de leur entrée en scène sur le Champ de Mars. Pardonnez, je suis un peu enrhumé. On va aller à Nice maintenant. C'est l'autre épicentre de cette soirée. On a commencé à Nice tout à l'heure. On retourne à Nice avec vous, Rosalie Lafarge. Bonsoir, Rosalie.
Bonsoir.
Quel est le programme de la soirée? Vous voulez nous parler de ce qui va se passer ce soir aussi chez vous? Il y a de la musique de prévu.
Oui, parce que ça n'est pas fini, pas du tout, cette journée ponctuée d'hommages et de cérémonies différentes. On va aborder la dernière, le concert sur le miroir d'eau de la promenade du Paillon, ici à Nice. Ça va commencer dans quelques minutes, 21h normalement. Avant de faire place à la musique, un film doit être diffusé sur l'expédition d'une association niçoise qui est allée déposer 86 galets peints en bleu, blanc, rouge dans l'Himalaya, à plus de 6000 mètres d'altitude. On va donc d'abord revenir sur ce voyage souvenir d'une équipe de 17 marcheurs, des médecins, des infirmiers, des pompiers. Et puis on va retrouver sur scène les 8 artistes qui ont lu un texte de Jean-Marie Gustave Leclésio. Tout à l'heure, ces comédiens et musiciens vont reprendre la parole. François Berléand, Michel Boujna, Patrick Chenet, Michel Larocque, Michel Legrand, Lynn Renaud, Patrick Timsit et Elsa Zilberstein. Tous vont lire d'autres textes, toujours à propos de Nice. Et ce sera là vraiment le début du concert avec l'Orchestre Philharmonique de Nice et le chœur de l'Opéra. La promenade du Paillon va vibrer au son du classique de Verdi ou Puccini. Et puis ce sera le silence total, absolu, une minute de silence à 22h34. Ce même silence qui a enseveli la promenade des Anglais il y a tout juste un an. 22h34, c'est l'heure exacte à laquelle le camion a percuté la foule il y a 12 mois avant de faire un carnage en simplement 4 minutes et 17 secondes. Mais cet hommage ne pouvait pas se terminer en silence, il va se finir en musique en chanson, avec ouais. Calogero. À la demande des familles des victimes, le chanteur vient interpréter sa chanson Les Feux d'Artifice. Tout un symbole évidemment, et puis ce sera l'heure des derniers symboles, hein, lâchés de ballons d'abord par 86 représentants des familles endeuillées et puis la mise en lumière des 86 faisceaux lumineux installés sur la promenade des Anglais.
Il y avait eu une cérémonie d'hommage beaucoup plus officielle, beaucoup plus installée cet après-midi qu'on a suivi dans les journaux d'information.
Oui, ce concert va venir finalement clore une journée émouvante, mais difficile aussi pour beaucoup de monde, pour les Niçois en général, et bien évidemment pour les rescapés. Revenir ici un an après fait forcément ressortir des souvenirs douloureux.
On se revisionne vraiment toutes les scènes, tout ce qui s'est passé, les gens qui couraient dans tous les sens. C'est quand même si j'essaie de tourner la page, c'est quand même assez dur de revenir.
C'est les cris des enfants, les dames, j'ai toujours ce bruit, ces gens qui courent, qui criaient, ces enfants, ces poussettes, c'est un truc que j'oublierai jamais.
Une épreuve, et pourtant nombreux sont ceux qui ont tenu à être là, à participer d'une façon ou d'une autre à cette journée de commémoration. Il y a aussi ceux qui n'étaient pas là l'an dernier, qui ont voulu venir rendre hommage à toutes ces victimes, aux 86 morts et plus de 400 blessés de la promenade des Anglais. Et Déborah est née un 14 juillet, cette jeune Belge a toujours eu l'habitude de fêter son anniversaire en France. Elle est encore là cette année, mais l'heure n'est plus à la fête.
Tout à l'heure j'étais avec ma sœur et on regardait le sol et on se disait, il y a des enfants de 2 ans, 5 ans, des personnes âgées de 80, 90 ans, qui ont vu leur vie partir en moins de 10 secondes. Et aujourd'hui, nous, on marche vivants et fiers d'être là et fiers de leur rendre hommage. C'est vrai que c'est un peu spécial qu'en fin de compte, avant le 14 juillet, quand on venait toujours en France, c'était les feux d'artifice et c'était la joie. Et aujourd'hui, ça fait un peu mal que ça soit une journée d'hommage. Mais je pense que c'est important d'être là. Nice est une belle ville. Il y a des gens de tout le monde qui est arrivé. Tout à l'heure, il y a des Norvégiens qui sont venus dire « on met cette plaque et on vient de Norvège ». Donc je pense qu'il y a vraiment une vraie sincérité, une vraie fierté.
Ces plaques dont parle Déborah ont été déposées toute la journée sur le quai des États-Unis à Nice. Des plaques de 20 cm sur 20, bleu, blanc, rouge, disposées selon un tracé prédéfini qui compose en fait un message visible du ciel qu'on a découvert tout à l'heure. Liberté, égalité, fraternité, écrit en énorme sur le sol de Nice. 12 000 plaques sur 170 mètres de long.
Oui, beaucoup de symboles dans cette émission. Et avec vous, Rosalie Lafarge depuis Nice, merci. Merci aussi à Laurent Maquetti qui était à vos côtés. Un dernier détour avec vous, Vincent Cespedes. Merci d'être resté toute cette heure en notre compagnie. Ces symboles, ces galets, ces faisceaux, ces flambeaux, tout ça, c'est important.
C'est vital et ça permet aussi de dépasser la matière, de dépasser les morts, de dépasser les drames qui scintillent sur nos écrans. Les symboles, c'est une façon de s'approprier le monde. C'est une façon de faire qu'on communique tous ensemble. Et je pense qu'on lutte contre le terrorisme et surtout contre ce qu'on appelle à tort la radicalisation, mais en fait c'est le fanatisme. On a fait du mot radicalité, qui est un joli mot, quelque chose d'horrible. Non, c'est de la fanatisation et ce sont des fanatiques. Lutter contre la fanatisation, c'est évidemment faire preuve de solidarité fraternelle avec des gens qui sont non pas nos semblables, mais des gens qui sont différents. Plus on va vers la différence, plus on fait fait reculer la barbarie.
Et plus on avance aussi, et plus on fait reculer la barbarie avec la musique et avec les artistes qui ont été avec nous ce soir. Merci Vincent Cespedes d'être venu. Je cite votre dernier ouvrage, Oser la jeunesse, paru en 2015 chez Flammarion. Merci à tous d'avoir porté cette émission spéciale. Vincent Cespedes, donc ici en studio, Stéphane Capron à Avignon, Didier Varro à La Rochelle avec Gérard Pont, Rosalie Lafarge et Sébastien Hazard à Nice avec leurs équipes techniques, Michel Soulier et Anna Sigalevitch, évidemment à la Tour Eiffel qu'on va retrouver dans un instant, Cécile Asp, Yann Chouquet à la Maison de la Radio. Merci aussi à Ludovic Asselot, à Philippe Duclos qui sont à la technique ce soir.